Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, ô lumière bienheureuse, viens donner, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Saint-Esprit, nous te demandons cette lumière aujourd'hui pour, à travers l'enseignement que nous allons entendre, pouvoir entendre Dieu qui nous enseigne, que nous puissions davantage entrer dans le mystère de la foi, que nous puissions marcher de plus en plus fortement à la suite du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, en disant qu'à travers mon enseignement, j'espère qu'on entendra la parole de Dieu, c'est bien plus clair que je ne me prends pas pour Dieu. Hein. Je précise au cas où vous auriez eu une confusion. Voilà. Alors, après les deux premiers conciles que nous avons vus sur le mystère de la Trinité, donc concile de Nicée en 325, puis concile de Constantinople en 381, donc qui portait sur les questions, les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a eu une relative paix de l'Église. Il y avait déjà eu un premier avertissement, on va dire, à peu près dans les années 360. Vous avez encore de la place ici, si vous voulez, ou encore un peu autour de la table, ici. Pour laisser de la place pour s'il y a encore des gens qui reviennent derrière. Donc il y a eu des premières alertes vers les années 360. Un ami de Saint Athanase, notamment, qui s'appelait Apollinaire de Laodicée, il commence à fouiller un peu les questions christologiques, de savoir finalement, si le Fils est vraiment Dieu, alors comment ça se passe à l'intérieur? Comment peut-il être à la fois homme et Dieu? Alors lui, Apollinaire, il avait cherché un peu, et puis il s'était dit, certainement que, du coup, le Verbe de Dieu tient en Jésus-Christ la place que tient en nous-mêmes l'âme. Et du coup, il est l'âme du corps du Christ. Et donc, il y a le corps du Christ, il a pris chair, il a pris corps, et puis le Verbe, ça tiendrait la place de l'âme. Ça pourrait être une bonne solution. Mais du coup, ça voudrait dire en fait que derrière ça, Jésus-Christ, le corps du Christ, l'homme Jésus-Christ, n'est pas vrai homme en fait, parce que du coup, il ne serait qu'un corps et un corps sans âme. Et donc, cette idée a aussi été condamnée. Alors, même si Apollinaire, il s'est retranché, il disait, alors c'est pas l'âme végétative, mais c'est l'âme intellectuelle qui serait le Verbe de Dieu dans le Christ, etc. Donc, il a essayé de sauver sa proposition, mais donc ça a été condamné parce que, du coup, derrière cette idée-là, il y avait le fait que Dieu, que Jésus-Christ n'était pas vrai homme, puisqu'il aurait été qu'une moitié d'homme, seulement corps. Dès cette époque-là, Saint Athanase, il rappelle que, Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu, totalement homme, avec un homme corps et âme, et toute son âme, et puis est vrai Dieu avec le Verbe de Dieu. Ça laisse un goût de méfiance vis-à-vis justement de l'apollinarisme, ce qu'on va appeler ça, donc l'apollinarisme, cette idée que le Verbe tient la place de l'âme en Jésus-Christ. Et puis les années vont se passer, et puis un siècle après le concile de Nicée, 40-50 ans après le concile de Constantinople, il va y avoir un patriarche qui va arriver sur le siège de Constantinople et qui va être choqué par un des points de la piété des fidèles. Les fidèles de son diocèse ont l'habitude de prier Marie, Mère de Dieu. Marie Théotokos, c'est le terme Mère de Dieu. Ce n'était pas quelque chose de nouveau du tout, c'était quelque chose qu'on peut faire remonter jusqu'au 3e siècle, voire 2e siècle. On a des traces déjà de certaines hymnes, de certaines prières, où on prie Marie, Mère de Dieu. Et puis c'est quelque chose qui est particulièrement présent, cette façon de prier Marie est particulièrement présente en Égypte autour d'Alexandrie. Or, Nestorius, lui, il n'est pas de la même école. Il est de l'école, il a fait sa théologie à Antioche. Et alors, vous avez ces deux oppositions qui vont être vraiment structurantes, c'est pour ça que j'insiste dessus là. C'est que entre Antioche et Alexandrie. Alexandrie va être, donc l'Égypte va être beaucoup plus mystique, va être volontiers marquée par le Verbe de Dieu venu fait chair, le Verbe de Dieu qui a souffert, le Verbe de Dieu qui a versé son sang. Et or, normalement, quelqu'un qui a un sens un peu théologique, qui rationalise bien les choses, il est un peu choqué par ça, parce que le Verbe de Dieu, il est immuable. Dieu ne peut pas changer, il va pas naître dans le temps, il va pas suer, il va pas souffrir, il va pas mourir. C'est Dieu. Et donc, quelqu'un qui rationalise bien les choses, il est choqué par cette mystique alexandrine. Et les Antiochiens, eux, peut-être aussi parce qu'ils sont encore plus près de la terre où Jésus a vécu, ils sont sensibles à la consistance de l'humanité du Christ et du coup à la distinction entre d'un côté Dieu, de l'autre côté l'homme en Jésus-Christ. Ils ont à cœur vraiment de distinguer les deux. Et pour eux, quand on dit le verbe a saigné, le verbe a souffert, le verbe est mort, eh bien, le Verbe de Dieu est mort en Jésus-Christ, eh bien, eux, ça les choque, ils vont dire, tiens, ça sonne apollinarisme. Donc, Apollinaire de Laodicée, qui justement avait dit, bah, le corps, Jésus-Christ, c'est juste un corps d'homme, mais après, c'est le Verbe de Dieu. Et donc, pour eux, là, il y a quelque chose qui sonne un peu hérétique. Nestorius arrive, il devient patriarche de Constantinople en 428, et il entend ses fidèles donc prier Marie, Mère de Dieu, Marie Théotokos, et il dit, on arrête là, vous arrêtez de dire Marie Théotokos, vous êtes en train de dire une grosse hérésie, donc vous arrêtez de prier comme ça. Et si c'est que ses fidèles, bah, ils y tiennent à Marie, Mère de Dieu. Ils prient Marie, Mère de Dieu, il y a une tradition qui prie Marie, Mère de Dieu, et ils se disent, mais qui c'est ce patriarche qu'on nous a mis là, qui nous empêche de prier comme on a toujours prié? Et donc ça commence à faire du remue-ménage. Mais Nestorius, lui, il tient à son truc, et il va prêcher, prêcher, prêcher contre Marie Théotokos, et il va dire Marie n'est pas Théotokos, mais Marie est Christotokos. On peut dire à la guerre que Marie est mère du Christ, mais pas mère de Dieu. C'est abusif de dire que Marie est mère de Dieu. Donc il fait ça, et puis comme il voit que ça bouge pas mal et tout, il commence à écrire au pape à Rome, à Célestin, et il dit voilà ce qui se passe dans mon diocèse, ça se passe pas bien, qu'est-ce que tu en penses toi, etc. Commence à faire un traité là-dessus et tout. Et puis la rumeur vient jusque en Égypte, où là il y a un fougueux patriarche aussi à Alexandrie, qui s'appelle Cyrille. Donc c'est Saint Cyrille d'Alexandrie, un homme au sang chaud. Globalement, ils ont tous le sang chaud dans l'histoire. Hein. C'est pas des mous, globalement. Et donc Saint Cyrille commence à entendre parler de ça. Et donc je vous ai dit, c'est particulièrement alexandrin, particulièrement égyptien, de prier Marie Théotokos. Donc lui, il entend commencer à parler de ça, et bah, il se trouve, donc il se dit, bah, tiens, ça va être important de faire une petite lettre à mes fidèles et aux moines de tout le patriarcat. Je vais écrire un peu à tout le monde pour rappeler quand même que c'est très très bien de prier Marie Théotokos, Marie Mère de Dieu. On va quand même rappeler les bases, c'est important pour ça. Donc voilà, il commence à s'agiter. Et puis là-dessus, du coup, il entend tellement parler de Nestorius qui raconte qu'il ne faut pas parler de Marie Théotokos, eh bien qu'il lui écrit une lettre en lui disant aussi arrête de dire ça, c'est n'importe quoi, rétracte-toi. Là-dessus, Nestorius, donc, il attend le message du pape, mais le pape, comme il ne parle plus très bien grec, dans l'Ouest, on ne parle plus très bien grec, il a confié ça à un moine qui s'appelle Jean Cassien, un grand moine, qui, lui, est spécialiste de l'Orient, il connaît bien l'Orient, il connaît bien le grec et tout, donc il analyse un peu tous ces textes qu'on lui a envoyés. Et puis, il écrit au pape, en gros, ça sent le roussi, là, chez Nestorius, c'est pas très très bon son truc, effectivement, donc faudrait peut-être condamner ça. Donc ils vont faire un synode en 430, et effectivement, Rome va condamner ça. Entre-temps, donc, il y a eu l'échange de lettres entre Nestorius et Saint Cyrille, ils ont continué à s'écrire. Nestorius, il a dit calme-toi, Cyrille, tu restes dans ton box et tu restes tranquille. Je dis qu'il ne faut pas dire Marie Théotokos et j'ai raison avec les pères de l'Église, etc. Et Saint Cyrille, donc, ça monte un peu forcément dans les tours et il commence à s'envoyer des lettres un peu chaudes. Et donc, Nestorius va dire bon, bah, très bien, Cyril, t'es pas content? Moi, je suis à Constantinople, j'ai l'empereur à côté de chez moi. Je vais lui demander de convoquer un concile. Donc, il appelle Théodose II. Il dit, allô, Théodose II, il faudrait convoquer un concile parce que le patriarche d'Alexandrie, patriarche de Rome, commence à m'embêter l'un l'autre. Donc là-dessus, il y a un concile qui va être convoqué. Donc en novembre 430, Théodose convoque un concile pour la Pentecôte 431, c'est-à-dire le 7 juin, je crois, de mémoire. Donc ils convoquent ce concile. Donc entre-temps, vous avez compris que Rome, lui, a déjà arbitré, a dit, il a fait un synode en disant, voilà, il a écrit à Cyril, le pape écrit à Cyril. Donc vous vous rappelez aussi, hein, sous Théodose le Grand, en 380, ils avaient dit, pour être orthodoxe, il faut être en communion avec le pape de Rome et puis le patriarche d'Alexandrie. Donc l'évêque de Rome, l'évêque d'Alexandrie, et là vous êtes en communion. Donc l'église d'Alexandrie et l'église de Rome marchent bien ensemble. Elles sont plutôt sur la même longueur d'onde de manière générale, même de manière liturgique d'ailleurs, c'est assez marrant, dans les niveaux liturgiques, les églises, les prières eucharistiques, etc. sont assez proches. Donc c'est des églises qui sont très proches l'une de l'autre. Et le pape va écrire à Cyril pour le dire, voilà la décision qu'on a prise à Rome. Et donc, je te charge, toi, Cyril, de la faire appliquer. Tu diras bien à Nestorius que voilà notre décision et moi, je suis à fond derrière toi. Cyril, là-dessus, il va prendre la confiance. Il va se dire, bon, le pape de Rome est avec moi, c'est bon, tout le monde est d'accord. Et donc, il va forcer un peu, il va forcer sur le trait. Et il va commencer à dire, et c'était selon le vocabulaire alexandrin aussi, voilà, il faut, Nestorius, si tu veux être catholique, il faut accepter la façon dont nous on prie à Alexandrie, et notamment de dire, eh bien, que Jésus-Christ est une seule nature. Il est vrai Dieu, vrai homme, en une seule nature. Parce que pour la façon dont les Alexandrins parlent, une physis, une nature, eh bien, pour eux, ça reflète aussi une personne, quoi. Une personne, mais concrète. Parce que pour les Antiochiens et pour Constantinople, pour Nestorius, du coup, on va dire une personne, mais on va dire prosopone. Et je vous rappelle, vous vous souvenez, prosopone comme persona, c'est un peu le masque, l'expression. Donc c'est moins consistant. C'est pas une substance concrète, quoi. Et pour Cyril, c'est important de rappeler que ben non, c'est un vrai homme complet. Et donc, il va parler de une physis, une nature. Mais alors, pour les Antiochiens, c'est horrible de dire une nature, parce que ça veut dire que ben, il n'y a plus la distinction, justement, des natures, qu'eux, ils appellent la distinction des natures. Donc, encore problème de vocabulaire. Ils ne sont pas, en fait, si loin l'un de l'autre, mais en fait, ils se comprennent pas du tout. Et donc, Cyril, comme il a reçu mandat du pape de Rome de faire appliquer la décision romaine, lui-même fait son synode à Alexandrie, condamne aussi Nestorius, et dit à Nestorius, il faut que tu acceptes ces 12 anathèmes dans un vocabulaire alexandrin, qui font horreur donc aux Antiochiens et à Constantinople. Là-dessus donc arrive le concile d'Éphèse en 431. C'est Cyril qui va le présider. Il est patriarche d'une des plus grosses églises d'Orient. Il a été chargé par le pape de faire appliquer la décision, par le pape de Rome de faire appliquer la décision. Donc c'est lui qui va présider ce concile à Éphèse. Éphèse, vous avez remarqué, en plus, c'est la ville de Marie. Voilà, c'est là où on a la tradition qu'il y avait la maison de Marie, parce que c'est là que Saint Jean s'est retiré à la fin de sa vie. Donc il y a une tradition qui situe à cet endroit-là. Vous savez, comme Jésus a confié sa mère au pied de la croix à Saint Jean, eh bien on dit que Marie a suivi Saint Jean quand il s'est installé à Éphèse. Et donc à Éphèse, on peut aller vénérer une maison de Marie, un tombeau de Marie, etc. Bon, il y a différentes traditions, parce qu'il y a aussi un tombeau de Marie à Jérusalem. Donc, a priori, comme en plus, elle n'est pas restée très longtemps dans son tombeau, parce qu'il y a eu l'Assomption. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait deux tombeaux, mais il y a différentes traditions. En tout cas, Marie marque beaucoup Éphèse. Et il y a une église qui est déjà consacrée à Marie, à Éphèse, à cette époque-là, avant même donc, le concile d'Éphèse. Ils vont se réunir là, dans cette église. Et donc ils arrivent dans ce lieu en juin 431. Donc, pour Nestorius, Cyril, c'est une sorte d'apollinariste, clairement. Donc, cette hérésie dont je vous parlais, qui n'honore pas la consistance de l'homme en Dieu. Et puis, pour Cyril, Nestorius, c'est une sorte d'adoptionniste, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté un homme, d'un côté Dieu, et puis Dieu aurait assumé un homme, ou aurait adopté c'est pour ça qu'on appelle ça adoptionnisme, leur a adopté un homme qui préexistait, si vous voulez. Donc il y avait un homme, Jésus, etc., il se baladait tranquille, et puis paf, il a été adopté. Il y a même une théologie adoptionniste qui dit, voilà, en fait, Jésus-Christ est devenu fils de Dieu au moment du baptême. Vous savez, il y a le baptême, et puis le ciel se déchire, et celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me complais. Et donc les adoptionnistes disent, voilà, en fait, jusqu'à 30 ans, il vivait tranquille comme charpentier, et puis il a été baptisé, et là, il a été adopté, comme fils de Dieu, Dieu en a fait son fils adoptif pour accomplir sa mission, etc. Donc ça, c'est la théorie adoptionniste, avec vraiment, vous voyez, cette différence entre homme et Dieu qui est très forte, et donc avec un peu l'idée derrière aussi que du coup, Jésus n'est pas vrai Dieu, enfin, il est quand même moins Dieu que Dieu s'il avait été Dieu de toute éternité. Et donc, pour Cyril, Nestorius, c'est une sorte d'adoptionniste, quelqu'un qui distingue trop entre l'homme et Dieu, et donc qui tombe dans cette hérésie. Donc vous voyez, en fait, il y a des tendances théologiques d'un côté et de l'autre, et chacun va forcer un peu sa propre tendance et forcer dans l'interprétation de l'autre la tendance qui lui est propre. Et donc ils vont à chaque fois donc, se voir un peu comme hérétiques. Il y a un vrai problème chez Nestorius, c'est qu'en fait, il part des deux natures pour essayer de les conjoindre. Il va parler de conjonction des deux natures, mais du coup, il manque à chaque fois l'unité. Et quel est l'enjeu derrière ça aussi ? C'est que s'il manque l'unité dans la personne du Christ, même s'il les conjoint très fortement à la fin, etc., mais en fait, il manque l'œuvre du salut. C'est-à-dire, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Si Dieu ne s'est pas vraiment fait homme, et si ce n'est pas Dieu qui s'est fait homme, et pas qu'il est Dieu qui a pris un homme, ou Dieu qui s'est adjoint un homme, eh bien, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Il faut que Dieu soit vraiment descendu jusque dans notre humanité pour sauver l'humanité. Sinon, ça reste, en fait, Dieu est resté étranger à nous. Et donc, c'est un problème, en fait, profond. C'est pas seulement une interprétation, une tendance liturgique, spirituelle, un peu, des sensibilités, on pourrait dire, aujourd'hui, qui sont un peu contraires. Non, c'est la question du salut qui est au cœur, en fait, de cette question-là. Donc, vous voyez que derrière Marie, Mère de Dieu, c'est un peu loin, en fait. Marie, Mère de Dieu, c'est parce que, effectivement, on pourrait dire, mais c'est bizarre, Dieu n'a pas de mère. Dieu est Dieu, Dieu n'a pas de mère. Mais derrière ça, c'est, eh bien, si Dieu s'est vraiment fait homme, et totalement homme, eh bien, donc, Marie est vraie mère de Dieu. Dans le temps, bien sûr, mais elle est vraiment mère de Dieu. Elle n'est pas seulement mère du Christ ou mère d'une partie du Verbe. Parce que le Verbe s'est en fait chair, il y a une unité profonde en Jésus-Christ, et donc on peut dire que Marie est mère de Dieu et pas seulement mère du Christ. Donc ils vont se réunir à Concile, à Éphèse, pardon, pour parler de tout ça. Donc ils arrivent, ils commencent à arriver. Donc Éphèse, c'est pratique parce que déjà c'est bien achalandé, donc ça peut nourrir tout le monde. Et ensuite c'est un port, donc on peut arriver par terre, par mer, et c'est pratique parce qu'à l'époque on circule plus facilement par mer que par terre. Cyril envoie toute une délégation. Donc l'empereur qui convoque le concile a dit, bon, ce serait sympa que chaque patriarche du coup vienne avec quelques évêques de sa province et quelques représentants, enfin voilà, pour qu'on puisse trancher les questions. Cyril, il a compris ça de manière généreuse, c'est-à-dire qu'il arrive, mais avec beaucoup d'évêques, plus pas mal de moines pour faire le coup de main, et quelques laïcs aussi. À Éphèse, pareil, il commence à y avoir pas mal de moines aussi à cette époque-là. Les moines, ce n'est pas des gentils ascètes tout maigres qui sont dans leur monastère en train de manger des sauterelles. C'est des sortes de militants, de leur église, quoi. Donc c'est un peu costaud, quoi. Assez souvent, c'est costaud. Ils sont dans les villes et ils sont. Alors il y en a qui sont dans le désert aussi, hein, qui mangent des sauterelles, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont dans les villes et qui sont un peu les forces vives, on va dire, et jeunes, et vaillantes, et fortes, de leur patriarche, qui vont être zélés dans la piété, etc. Et donc, il arrive avec son escouade de moines aussi, Cyril, à Éphèse, et il arrive par bateau, donc il arrive assez vite, c'est un des premiers à être là. Le pape, il a envoyé aussi deux légats pour le représenter, donc le pape Célestin, il a envoyé deux légats, en leur disant une mission assez claire, vous ferez comme Cyril a dit. Voilà. Vous êtes d'accord avec Cyril, quoi que fasse Cyril, vous êtes d'accord avec Cyril, vous allez vous justifier Cyril. Cyril arrive, Nestorius arrive, et puis on attend un peu d'autres personnes, notamment des gens de Jérusalem. On attend aussi des gens d'Antioche. Alors les gens de Jérusalem, ils sont plutôt du côté de Cyril de Jérusalem, de Cyril d'Alexandrie, ils sont d'accord avec lui. Et puis par contre, les Antiochiens, eux, donc notamment avec Jean d'Antioche, ils sont plutôt de la spiritualité de Nestorius qui a été formé à Antioche. Et donc eux, ils sont plutôt d'accord avec Nestorius. Donc tout ce monde-là arrive tout doucement vers Éphèse. Le temps passe, il fait chaud, les évêques sont vieux, il y en a quelques-uns qui meurent, etc. Donc on commence à attendre un peu, et on commence, enfin notamment Cyril, certainement, on commence à trouver un peu le temps long. Surtout que, donc ça fait 15 jours qu'ils sont là, on n'a toujours pas pu trop ouvrir le concile. Nestorius, il commence à lui chauffer les oreilles avec ses idées de Marie, Christotokos, machin, etc. Ou de, alors, Nestorius, il commence à voir aussi qu'il y a des problèmes, donc il a dit d'accord pour Théotokos, mais avec des réserves, etc. Donc, ça l'énerve aussi un peu Cyril, il entend ça. Bon, il dit, bon, on est là, il y a Nestorius, il y a moi. J'ai été chargé par le pape de toute façon de faire appliquer la décision du synode romain et du synode d'Alexandrie. Finalement, ce n'est pas la peine d'attendre les Antiochiens. On va commencer le concile. Donc, il commence le concile le 22 juin. Le 21-22 juin. Et en fait, les Antiochiens ne sont pas arrivés parce qu'ils arrivent par voie de terre, eux. C'est les moins loin, mais les moins loin arrivent toujours les derniers. Ils arrivent par voie de terre et en fait, c'est compliqué. Justement, il y a des évêques qui sont morts en route, il y a des bêtes de somme qui sont morts en route. Enfin, c'est un peu l'expédition, quoi. Et donc, ils disent, bon, là, c'est un peu pénible, on a du retard. Et donc, effectivement, ils ont du retard. Et Cyril, donc, il dit, bon, on va quand même ouvrir le concile sans attendre les évêques et donc sans attendre les partisans de Nestorius, que les évêques de Jérusalem étaient arrivés, machin, etc. Et donc finalement, il va y avoir d'un côté, en gros, une quinzaine d'évêques du côté de Nestorius, et puis du côté de Cyril, une 150aine d'évêques. Donc, majorité plutôt confortable pour voter les décisions du concile. Donc, donc Nestorius, il ne va même pas venir au concile, il ne va même pas comparaître au concile, il va rester enfermé chez lui. Et alors, l'empereur, c'était tellement agité et tellement tendu, l'empereur avait envoyé son armée pour protéger Nestorius. Donc là, il y avait un représentant de l'empereur qui était là. Et donc, les évêques, quand ils viennent chercher Nestorius dans sa maison, dans son hôtel, en fait, Nestorius est enfermé chez lui. Et puis, il y a l'armée qui lui permet de se défendre contre, notamment, certainement, un peu contre les moines qui sont là et qui s'agitent beaucoup. Il se trouve qu'à Éphèse même, l'évêque d'Éphèse, même nom, est un fervent partisan aussi de Cyril d'Alexandrie et de Marie, mère de Dieu. Donc en plus, l'ambiance à Éphèse même est très hostile à Nestorius. Donc Nestorius, il est hyper minoritaire dans son truc. Et en plus, l'environnement est très hostile. Et donc, il ne veut pas sortir, il ne comparaît même pas au concile devant Nestorius. Il est condamné le jour même, condamné, déposé. Il n'est plus évêque de Constantinople et donc il est condamné à cause de son hérésie. Là-dessus, du coup, Saint Cyril d'Alexandrie écrit une petite lettre aux fidèles du diocèse. Nous avons tout s'est bien passé. La ville a exulté de joie devant la décision du concile. Le nouveau Judas a été exclu. Voilà, tout va bien. Il y a un vocabulaire très fleuri. Hein. Il y a une poésie des condamnations de l'époque où ils y vont. Le nouveau Judas. Ils ont la plume acérée. Hein, ils sont pas très très tendres les uns envers les autres. Donc ils écrivent ça. Ils disent voilà, les femmes sont sorties en sautant de joie, etc. Enfin, il décrit. Il y a eu des feux d'artifice quasiment. Enfin, et donc grande joie à Éphèse. Nous avons pris la bonne décision. L'unité de l'Église est sauvée, etc. Donc on nomme un nouvel évêque à Constantinople là-dessus, Maximien. Donc tout va bien. L'unité de l'Église est sauvée et Marie Mère de Dieu, la gloire de Marie est sauvée et l'unité surtout en Jésus-Christ est sauvée. Et donc avec cette idée. Assez alexandrine, encore une fois, hein, de verbe de Dieu, et on part à Alexandrie de l'unité, c'est le verbe de Dieu qui s'est fait chair, et en se disant s'est fait chair, c'est pas seulement s'est fait corps, mais s'est fait chair, s'est fait homme entièrement, mais c'est le verbe de Dieu, il y a trois personnes en Dieu, il y a une personne en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est une personne divine, il a deux natures, de nature bien consistante, hein, homme et Dieu, mais il n'y a qu'une personne, et c'est une personne divine qui s'est fait chair. Voilà. C'est les théologies de l'Église. Une personne divine, une des trois personnes, s'est fait chair, s'est fait homme, au milieu des hommes. Et ça, c'est la théologie qui va être sauvegardée à ce moment-là. Là-dessus, les Antiochiens finissent quand même par arriver. Donc Jean d'Antioche avec ses moines aussi. Ils arrivent là, ils sont encore tout poussiéreux de leur voyage, qu'on commence à leur dire ce qui s'est passé 4 jours plus tôt, le 22 juin, Nestorius condamné. Donc ni une ni deux, ils arrivent, ils n'ont même pas le temps de se changer, ils se font un contre-concile, qu'on appelle un petit concile, un conciliabule. Et du coup, ils vont excommunier Cyril d'Alexandrie et même non d'Éphèse. Et puis tous les autres qui ont voulu signer la condamnation de Nestorius, en disant rien du tout, c'est totalement irrégulier. Il se trouve que le représentant de l'empereur qui était là est d'accord avec eux. Il dit, c'est vrai que Cyril, il a commencé le truc alors qu'il ne fallait pas commencer. Moi, je lui ai dit qu'il ne fallait pas commencer. C'est irrégulier, c'est non valable. Ça n'a pas du tout. Donc tout le monde écrit à Nestorius, à l'empereur, et tout ça pour le dire. Parce que Saint Cyril, il avait écrit à tout le monde aussi, à l'empereur, aux impératrices, parce qu'il y a une mère, une femme, qui sont très influentes. Parce que Théodose II, il a le sang moins chaud et moins caractère que les patriarches de l'époque. Théodose II, il est plutôt gouverné par ses femmes, donc sa mère et sa femme. Et donc ils écrivent aux impératrices, ils écrivent à l'empereur, et tout ça. Et tout le monde écrit à tout le monde en donnant chacun sa version. Mais le représentant de l'empereur, il n'est pas du tout content. Et il écrit à l'empereur en disant aussi, ce qui s'est fait, c'est totalement irrégulier et nul. Cyril s'est réuni sans les adversaires, avant que les autres arrivent, ça ne va pas. Et donc le représentant de l'empereur est plutôt de son côté. Donc là-dessus, l'empereur fait annuler, le 29 juin, il fait annuler toutes les décisions du 22 juin. Il dit la condamnation de Nestorius n'a pas eu lieu, etc. Mais là-dessus arrivent enfin les légats du pape. Donc les représentants du pape Célestin finissent par arriver. Et eux, avec leur mandat de dire, on fait tout comme Cyril. Et donc ils arrivent et ils vont voir Cyril en disant, voilà, nous on est d'accord avec toi, non mais le concile tout va bien, et d'ailleurs nous sommes d'accord avec toi et nous condamnons aussi Nestorius, etc. Donc en fait, l'empereur avait voulu stopper le concile, mais en fait, eux, chacun avait continué de son côté, et donc les représentants du pape arrivant, ils disent, non mais c'est Cyril qui a raison. Et donc là-dessus, il condamne de nouveau Nestorius, il confirme les décisions donc de Cyril, et puis en plus, comme entre-temps les Antiochiens sont arrivés puis ont excommunié les autres, donc Jean d'Antioche, etc., ils vont condamner aussi et excommunier aussi les Antiochiens, donc Jean d'Antioche, etc. Donc voilà, vous avez le beau sac de nœuds sur la question. Et donc Théodose II, il envoie un nouveau représentant, et que une sorte de ministre des Finances, et le comte Jean, je crois. Et du coup, il arrive là-dedans, il voit ce gros sac de nœuds, et du coup, il a dit, j'arrête tout le monde part en résidence surveillée, et tant que vous n'êtes pas réconcilié, vous restez emprisonné en résidence surveillée. Donc il enferme Cyril, il enferme Jean d'Antioche, il enferme Nestorius, il enferme Memnon d'Éphèse, tout le monde doit rester enfermé chez soi, et vous resterez enfermé, vous êtes prisonnier, tant que vous n'êtes pas réconcilié. Donc ça va durer un petit moment, ça. Finalement, à l'automne, il abandonne la partie, parce qu'il voit que ça ne marche pas. Et donc, entre-temps, Cyril s'était carapaté. De toute façon, il avait fait le mur. Il était rentré à Alexandrie en triomphateur. Les Antiochiens, donc, rentrent chez eux en triomphateur aussi, parce que du coup, chacun, en fait, est resté dans son camp. Et voilà. Il n'y a que Nestorius qui rentre chez lui, mais il y a quelqu'un qui a pris sa place, donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Et puis il y avait des problèmes aussi à Constantinople. Là-dessus, il y a aussi des églises qui vont se séparer à ce moment-là. Vous savez que donc on a parlé de l'arianisme, il y a eu des schismes à un moment de l'arianisme, etc. Mais ces schismes, ils ont perduré à un certain moment parce qu'il y avait aussi les barbares. Vous vous souvenez de tout ça? Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'église arienne. Ça s'est éteint. Alors, est-ce que vous voyez quels pourraient être à la rigueur les successeurs des ariens aujourd'hui, des chrétiens ariens? Donc de ceux qui pensent que Jésus n'est pas vraiment Dieu. Voilà, il y a les témoins de Jéhovah d'un côté, et puis d'un côté aussi un peu les musulmans. On pourrait dire c'est eux qui sont un peu héritiers de ce premier schisme. Je vous avais dit la semaine dernière, le Saint Jean Damascène, qui est donc lui qui vit au 8e siècle, je crois, 7e, 8e siècle, il est le fils d'un haut fonctionnaire chrétien d'un des califes. Parce que les cadres étaient chrétiens dans l'Empire, parce qu'ils avaient pris la place de l'Empire byzantin. Donc ils ont gardé les mêmes, et puis ils ont continué, mais sauf que c'était un califat. Et donc Saint Jean Damascène, il est enfant d'un haut fonctionnaire du calife, qui est chrétien. Et pour lui, les musulmans, sa lecture, c'est que c'est des ariens, en fait. Il analyse avec ce qu'il connaît, et pour lui, les musulmans sont des ariens. En fait. Ça explique aussi la facilité de conquête des musulmans en Afrique du Nord, tout comme ça, parce que bah, l'église, les églises avaient été déjà divisées par en Aryens, etc. En Afrique du Nord, ceux qui occupaient le terrain à peu près, enfin, juste avant l'arrivée des musulmans, c'était des Vandales et des barbares chrétiens aryens. Donc, enfin, vous voyez, en fait, il n'y avait pas tant d'étrangeté quand les Arabes musulmans sont arrivés pour la conquête arabe en Afrique du Nord. Donc, les Aryens, voilà, on peut voir, mais il n'y a plus de chrétiens aryens, quoi, globalement, genre. Par contre, effectivement, le schisme qui s'est fait à ce moment-là, il a encore des conséquences aujourd'hui. Donc, il y a des églises qu'on appelle nestoriennes, du coup, parce qu'il y en a qui n'ont pas accepté donc les décisions du Concile d'Éphèse. Donc, notamment l'église de Perse, qui était des chrétiens qui étaient en dehors de l'Empire romain. En gros, ils n'avaient pas été invités au Concile, enfin, je ne sais pas, en tout cas, ils n'y étaient pas venus, et donc les décisions sont prises sans eux, et donc ils n'ont pas, voulu condamner Nestorius. Et du coup, les Nestoriens, après, se sont réfugiés un peu chez eux aussi, et ce qui a donné ce qu'on a appelé, du coup, un peu l'église nestorienne. Ce qui a donné, notamment, en fait, ils ont été très missionnaires en Asie, donc en Inde, en Chine, etc. Et donc, par exemple, je ne sais plus quel explorateur, en arrivant en Chine au XIIIe siècle, trouve auprès de l'empereur de Chine des ministres nestoriens. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui a marqué ce moment-là. Et des orientaux qui, parfois, après, sont venus dans la foi catholique, dans la communion catholique, mais pas toujours. Donc c'est des choses qui ont perduré, qui ont marqué, vous voyez, l'Église profondément. Donc là-dessus, donc je vous disais, les légats du pape sont arrivés, le nouvel envoyé de l'empereur est arrivé, a enfermé tout le monde, a fini par les libérer à l'automne, tout le monde est rentré chez soi, mais du coup, l'Église d'Alexandrie et l'Église d'Antioche se sont excommuniées l'une l'autre. Et ça ne s'est pas réglé. Et puis donc il y a un nouveau... je ne vous ai pas raconté. Pendant que les évêques sont prisonniers à Éphèse, Saint Cyrille, notamment, va justement faire envoyer, il va arroser la cour impériale de cadeaux pour qu'on lui donne raison et que pour se faire libérer. Il va envoyer des tapis, des tissus précieux, des autruches, de l'or, etc. Il va envoyer tout ça à la cour de l'empereur par l'intermédiaire justement de l'évêque de Constantinople pour obtenir gain de cause, quoi, de son côté. Donc c'est ce qui fait dire à un historien du XVIIIe siècle, Saint Cyrille était saint, mais tout ce qu'il a fait n'était pas saint. Donc voilà. De fait, il a été zélé dans la défense de la foi catholique et dans la défense de la foi que tout le monde a reconnue ensuite, effectivement, après, dans laquelle tout le monde s'est reconnu a posteriori. Il n'était pas, a priori, il n'y a rien qui permet de penser qu'il était intéressé, justement, matériellement. On pourrait dire peut-être politiquement, parce que Antioche et Constantinople et Alexandrie sont concurrentes, vous voyez, elles se défient l'une de l'autre, mais il n'y a pas dans les textes quelque chose qui permet de le penser non plus. Il y a certainement une incompréhension culturelle derrière ça qui va se décliner aussi de manière politique dans ces années-là, mais il n'y a pas ça non plus. Donc vraiment, a priori, Saint Cyrille était vraiment mu par la défense de Marie, Mère de Dieu, dans la défense de l'unité de ce qu'on appelle l'union hypostatique en Jésus-Christ. Donc c'est vraiment ça qui l'a mu, mais effectivement, du coup, il a pu employer parfois des moyens un peu, pas toujours, on va dire, modérés. Voilà. Ce qui a du coup crispé un peu ceux qui étaient en face de lui. Voilà. Alors que justement, Célestin, notamment, lui en disant « tu appliqueras mes décisions », il l'avait appelé notamment aussi à la modération. Parce qu'il voit bien qu'il y a un problème aussi de personne derrière, un problème de fierté aussi derrière tout ça. Bon, bref, tout le monde rentre chez soi. Célestin reçoit, donc le pape Célestin Ier reçoit les décisions du Concile d'Éphèse, il les approuve, il les ratifie. Il va nommer même donc Cyrille défenseur de l'Église. Donc voilà, il y a cette réception à ce moment-là. Donc je vous ai parlé donc d'union hypostatique, cette idée donc hypostase, vous vous souvenez du mot, c'est hypostase, le même mot que substance étymologiquement, mais qui ne veut pas dire la même chose. Hypostase, donc c'est le mot qui va être utilisé en grec pour dire la personne concrète, donc cette personne qui est consistante, pas seulement prosopone, pas seulement le visage ou pas seulement l'expression, mais ou le masque même, mais hypostase, vraiment la personne consistante. Et donc, on va parler d'union hypostatique des deux natures dans l'unique personne de Jésus-Christ. Donc, deux natures dans l'unique personne de Jésus-Christ. Alors, ces deux natures, vous voyez, ce n'est pas le terme alexandrin. Et en fait, Jean d'Antioche et Saint Cyrille d'Alexandrie donc Jean d'Antioche et Cyril d'Alexandrie, donc les deux évêques qui s'étaient excommuniés, vont en fait ne pas perdre contact, ils vont en fait s'écrire pour essayer de se réconcilier quand même. Et en fait, chacun va mettre un peu d'eau dans son vin et accepter et trouver effectivement une formulation commune de la foi. Et donc, ça va être en 433, il va y avoir une lettre d'union par laquelle ils vont se réconcilier, ils vont trouver des termes communs. C'est-à-dire que les Antiochiens vont accepter de parler de Marie Théotokos, voilà, avec l'idée d'un seul prosopone, une seule prosopone, donc une seule expression, et, mais qui veut avec cette consistance de l'hypostase, donc union hypostatique. Donc, en fait, derrière tout ça, il y a comment on définit les mots, en fait. Quel sens on donne aux mots ? Puisqu'on n'arrive pas à s'entendre en fait sur les mots, il faut les définir. Et souvent, le problème de la mésentente, ça va être justement ce problème de définition. Donc, en fait, on va essayer davantage former, de donner le sens aux mots. En disant, ben voilà, quand on dit prosopone, voilà ce qu'on entend, en fait. Ce n'est pas seulement le masque, ce n'est pas seulement la consistance, mais c'est, voilà ce que ça veut dire. Et du coup, derrière, Saint-Cyril, il va abandonner son terme « une seule nature ». Il ne va, va plus en faire un casus belli. Et du coup, ils vont pouvoir s'entendre, vont pouvoir s'entendre là-dessus. Donc, Dieu parfait, homme parfait, en une seule personne, donc avec un corps et une âme. Donc, un homme parfait, Dieu parfait, mais union hypostatique, c'est le verbe de Dieu qui s'est fait chair. Voilà. Donc, ils vont finir par se réconcilier. Donc, là-dessus, ils vont. Et puis aussi, les Antiochiens vont pas. Ils vont dire on abandonne Nestorius, on va pas réclamer qu'il revienne sur le siège de Constantinople. Donc, Nestorius, bah, il restera en exil. Au début, il était à Constantinople, mais comme il continuait à remuer, on l'a envoyé en exil à Petra. Oui. C'est joli, Petra. C'est joli. Voilà. Mais du coup, on a fini par l'envoyer même plus loin, et il a fini par être envoyé dans un désert en Libye, dans la grande oasis de Libye, où il a fini sa vie là-bas. Il était encore vivant dans les années 450, et il a écrit un mémoire pour se défendre, où il rappelle que bah, il avait essayé, et effectivement, on voit à travers le mémoire qu'il a écrit, puis même à travers d'autres lettres hein, qu'on a et qu'il a écrites, que... en fait, les adversaires des uns et des autres avaient forcé les positions de leurs adversaires, quoi. Et que il avait. Alors, il y avait un vrai problème chez Nestorius, c'est-à-dire qu'encore une fois, il partait des deux pour les unir, et du coup, il arrivait une fois qu'on était parti des deux, on avait du mal à les unir. On essayait de les conjoindre encore une fois, mais ça ne pouvait pas marcher. Donc, il y avait une vraie erreur théologique, mais c'était pas un affreux adoptionniste, quoi. Donc il a écrit un mémoire et en fait il a été retrouvé on l'a retrouvé au début du XXe. Je peux exactement, vous savez, il y a ce genre de résurgence, des fois on a des réserves dans des bibliothèques, on ne les ouvre jamais parce qu'on a des tas de livres qu'on n'ouvre jamais. Puis au moment où alors c'est répertorié sous telle cote, on pense que c'est tel truc. Puis en fait à l'intérieur du livre qu'on connaît, des fois à l'intérieur de ce livre-là, on retrouve un autre livre à l'intérieur qui en fait est un vieux traité qu'on avait relié dans le bouquin en même temps et en fait qui était un vieux livre du IVe siècle. Ça arrive de temps en temps, régulièrement. Là, je connais un gars qui était étudiant avec moi, lui il travaille à la Bibliothèque Vaticane maintenant, et il y a 3 ans, il a retrouvé comme ça un bouquin aussi sur c'était la question de la date de Pâques, mais c'était intéressant, c'était un truc qui datait aussi de ces époques-là, du concile de Nicée à peu près, et d'une église qui avait sa propre façon de dater Pâques, et dont on n'avait pas de traces ou plus de traces du tout, ou qu'on avait pu évoquer tout. Enfin, il a retrouvé le bouquin, le traité, en fait c'est une lettre d'un évêque assez fidèle, et qui avait été collationné en quelque sorte dans un autre bouquin, et donc il a pu retrouver ça, il a vu que c'était pas... et donc après il a fait une traduction. Enfin, donc on retrouve régulièrement ce genre de choses, donc... 1600 ans après, on retrouve des fois ce genre de choses. Donc, ça a été le cas pour le mémoire le mémoire pro domo de Nestorius, écrit depuis son exil libyen au milieu de son dizaine. Là, en l'occurrence, je ne sais pas, je n'ai pas les détails de la chose, mais oui, souvent, c'est écrit sur des papyrus. À cette époque-là, oui, c'est les papyrus qui circulent. Il y a déjà un peu des parchemins, mais les parchemins, je crois que c'est un peu plus tard. C'est quand, en fait, les parchemins arrivent quand on n'a plus accès aux papyrus. Donc, globalement, c'est l'invasion musulmane qui va tarir la source des papyrus, qui était une façon beaucoup plus simple d'écrire, hein. C'est l'ancêtre du papier, et donc en fait c'est du tissage végétal, le papyrus, à partir des roseaux égyptiens. Et en fait, le parchemin, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est du cuir, etc. Donc, c'est quand même plus onéreux, je crois. Parce que non, je crois que le papyrus était assez onéreux aussi. Mais il faisait ça à grande échelle. Et en fait, du coup, à partir, je crois, de l'invasion musulmane, c'est la source du papyrus qui va se tarir. Et donc, le parchemin va beaucoup plus se diffuser, je crois, à partir de cette époque-là. Et on va attendre beaucoup plus longtemps pour retrouver du papier tel qu'on sait le faire aujourd'hui. Donc voilà un peu quelques éléments sur ce concile d'Éphèse. Donc vous voyez qui a été considéré vraiment comme œcuménique parce que donc Cyrille était mandaté par le pape. Ce qui est intéressant, vous voyez aussi la figure du pape derrière ça. C'est que Nestorius, il en appelle à l'évêque de Rome. Cyrille, il reçoit mandat de l'évêque de Rome. Donc il y a une autorité de l'évêque de Rome. Et même, on va manifester au concile d'Éphèse, voilà, Pierre, effectivement, de tout temps, Pierre a parlé par l'évêque de Rome, etc. Enfin, on va dire toutes ces choses-là, notamment à Éphèse. Et donc, c'est intéressant de voir l'autorité aussi de l'évêque de Rome, qu'on voit vraiment émerger à cette époque-là. Qu'on retrouve déjà hein, dès les premiers siècles. Hein, il y a une lettre de Saint Clément, il y a des Grecs qui écrivent à Saint Clément de Rome pour régler des litiges, etc. Donc il y a une autorité très forte de l'évêque de Rome, quand bien même l'Occident, encore une fois, vous voyez, il n'est pas partie prenante. Il y a très peu de. Il n'y a pas d'évêques occidentaux qui vont venir au concile, sauf les légats du pape. Donc c'est vraiment. C'est même pas des évêques d'ailleurs, il y a un prêtre et deux diacres, je crois, qui partent. Et donc. Donc l'Occident est très peu représenté. On avait voulu faire venir Saint-Augustin, mais il était mort quelques mois avant, donc il n'a pas pu venir. Ça montre aussi l'autorité de Saint-Augustin, parce qu'on voulait le faire venir, alors que c'était un affreux occidental, mais on voulait le faire venir quand même. Mais donc ça reste une question quand même plus orientale. Mais du coup, notamment grâce au légat du pape, c'est un concile aussi œcuménique, puisqu'il réunit donc représentants d'Occident et représentants d'Orient. Voilà, c'est un concile d'Éphèse qui, alors l'historiographie, la façon dont on a reçu dans l'histoire de l'Église, a donné pas mal le mauvais rôle à Cyrille d'Alexandrie. Vous avez compris pourquoi? Parce que du coup, c'est quand même, c'est pas toujours délicat, on va dire. Voilà, bon, faut pas forcer dans un sens ou dans l'autre aussi. Cyrille n'était pas encore une fois non plus l'affreux personnage qu'on a pu faire dans l'historiographie. Nestorius n'est pas la, parce que forcément on va dire ah mais il est victime donc on préfère toujours les victimes dans l'histoire aujourd'hui. C'est pas non plus enfin voilà c'est pas non plus la victime. Il était aussi quelqu'un qui a été qui a traqué ceux qui parlaient de Marie Théotokos. Et il a quand même c'est lui qui a convoqué le concile hein, enfin qui a demandé la convocation du concile. C'est lui qui a écrit partout à Rome. C'est lui qui a quand même beaucoup remué les choses à cause de son obsession anti-Théotokos. Donc voilà, il n'y a pas un gentil, un méchant, un gentil Nestorius ou un méchant Cyrille. Il n'y a pas non plus un affreux méchant Nestorius et un très très gentil Cyrille. Vous avez bien que. Voilà. Mais en tout cas, Cyrille est saint et Nestorius ne l'est pas parce qu'il y en a un qui défend la foi de l'Église et puis l'autre quand même qui a agité beaucoup l'Église à ce moment-là pour effectivement quelque chose qui donc finalement a été reconnu comme faux et non traditionnel. Et aussi, à chaque fois, on va se référer, c'est intéressant, on va se référer à la foi telle qu'elle a été formulée à Nicée. Voilà. Donc l'autorité du concile de Nicée aussi s'atteste dans ces conciles où en fait on se réfère en disant bah, c'est pas conforme au concile à la foi qui a été proclamé à Nicée. Donc c'est intéressant aussi de voir la chose à ce moment-là, aussi parce que justement les Nestoriens avaient eu tendance à faire circuler un nouveau credo. On dit bah, non, il n'y a pas d'autre credo que celui qui a été fait à Nicée. Est-ce que vous avez quelques questions sur ça? Donc c'est assez dense. Vous voyez, c'est une question, en fait, Marie Théotokos, ce n'est pas la question mariale, c'est une question christologique. C'est en fait comment Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Voilà. Et comment justement l'unité se fait en lui. C'est ça le débat derrière Marie Théotokos. Donc pas tellement Marie, mais vraiment le Christ. Ouais.